Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Née en 1815 en Guadeloupe, d'une mère riche, mulâtresse, libre, arrivée à l'âge de 10 ans à Paris et devenue l'un des jeunes lions de la société parisienne dès ses 20 ans, Alexandre Privat d'Anglemont. Poète, auteur de théâtre, critique dramatique, chroniqueur du Paris de l'époque. Un ou deux quartiers très bien décrits, pittoresques, ainsi le Clos Bruno et ses marginaux des chiffonniers. En fait, le faubourg souffrant, expression de Privat d'Anglemont. À savoir, la montagne Sainte-Geneviève et le mont Saint-Hilaire, où l'on trouvait par exemple un berger en chambre. Oui, il s'occupait de plusieurs chèvres dans son cinquième étage. Ou encore un éleveur d'asticots de différentes couleurs. Dans la première émission de cette série, Les Inconnus de l'Histoire, nous avons fait connaissance avec ce jeune homme de la bohème parisienne, ami de Baudelaire et de Théodore de Banville. Le temps a passé, nous allons voir les débuts du Second Empire et le jeune lion se verra désormais en prostitué de l'intelligence. Première diffusion sur France Culture, le 18 novembre 1983.
Unknown people in history.
Disconosciuti nella storia.
La storia dos desconhecidos.
Unbekannte der Geschichte.
L'uomo non si rende.
The unknowns of history.
Les inconnus de l'histoire.
Il n'y a personne au monde qui ait moins les goûts champêtres que moi. Je préfère un coin du ciel vu par la fenêtre d'une mansarde au plus beau paysage. Je ne comprends la belle nature qu'au Luxembourg ou bien au Jardin des Plantes. Quant à la campagne, Ménilmontant et Montmartre sont mes montagnes. Les bois de Vincennes et de Boulogne, mes forêts. Mon rêve n'a jamais été de vivre parmi les poules et les canards. Je les préfère à la vallée tout préparée. Quand on a vécu dans cette atmosphère de Paris, au milieu de cette lutte incessante, il vous faut le bruit, le tapage et l'animation des grandes foules.
Marc Gaillard, nous sommes en ce moment derrière le Collège de France, sur le flanc de la montagne Sainte-Geneviève, exactement rue de l'Anneau, et au coin d'une toute petite rue qui est en fait maintenant devenue une impasse, qui s'appelle la rue d'Écosse. Alors vous avez récemment retracé l'histoire de l'architecture et de la vie de Paris au XIXe siècle dans un ouvrage. Vous y évoquez notamment les petits métiers de la rue, comme les décrotteurs, les tondeurs de chiens, ou bien les cuisinières en plein air. Mais aussi, vous nous montrez comment vivait le peuple des bas-fonds d'un Paris à la fois nomade et sauvage, comme celui des chiffonniers ou celui des ravageurs. Alors, nous sommes dans cette petite rue du quartier latin où il y a encore des maisons anciennes, il y a des maisons du 17e,
oui,
un peu plus bas.
18e,
est-ce que vous pouvez nous faire la topographie de cette montagne Sainte-Geneviève et de ce mont Saint-Hilaire dont parle Privat d'Anglemont avant la percée haussmannienne, notamment celle de la rue des Écoles?
Oui, alors là, le quartier où nous sommes, le petit micro-quartier où nous sommes n'a pas fondamentalement changé, si vous voulez, au cours des siècles, en dehors du fait que la rue de l'Écosse, qui était l'ancienne rue des Écossais, conduisait vers le collège du même nom et qu'elle est maintenant obturée par une institution.
Le Collège des Écossais qui est rue du Cardinal Lemoyne.
Rue du Cardinal Lemoyne, plus loin là-haut. Et ce qui a commencé à changer le quartier, c'est à la fin du XVIIIe siècle, évidemment, la construction du Panthéon et l'ouverture de la rue Clovis. Ensuite, il a fallu attendre pratiquement un siècle de plus pour qu'on y fasse de nouveaux travaux avec le percement de la rue des Écoles, qui est un percement pré-haussmannien et qui a été fait un petit peu trop haut, qui a obligé Haussmann à faire un deuxième percement, en l'occurrence le boulevard Saint-Germain, qui coupe cette fois le quartier en quatre, si je puis dire. Et le quartier a été donc tout à fait bouleversé par ces trois grandes percées, la rue des Écoles, le boulevard Saint-Germain, terminé assez tard, et surtout le boulevard Saint-Michel, qui a fait disparaître la plus grande partie de la rue de la Harpe, depuis la rue Monsieur le Prince jusqu'à ce qu'il en reste aujourd'hui. Mais ici, disons, c'est resté à l'écart des perturbations, probablement parce que c'était d'assez bonne construction, il n'y a pas eu de raison d'y toucher ou d'en changer. Et c'est ce quartier, sur ce flanc de la montagne Sainte-Geneviève, à cet endroit précis, que Privas d'Anglemont situe pratiquement une bonne moitié de ses descriptions, de ces personnages extraordinaires qui élèvent des asticots, qui, qui sont des personnages tout à fait parisiens de l'époque, bien entendu disparus depuis longtemps. Toute une série de petits métiers que je n'ai pas tous évoqués, bien sûr, dans mon livre, et que Privas d'Anglemont évoque avec beaucoup de verve, parce que je crois qu'il les a vécus quotidiennement. Privas d'Anglemont se couchait avec le jour, si je puis dire, et vivait essentiellement la nuit, soit au hall, soit ici.
Claude Pichois, l'essentiel de l'œuvre littéraire d'Alexandre Privas d'Anglemont va être l'ensemble de ses chroniques sur Paris, à la fois une série de portraits et également des études des véritables villages que constituent les quartiers de Paris et qui ont été réunis dans deux volumes, Paris inconnu et Paris anecdote. En fait, il s'agit de chroniques de journaux qui ont été publiées séparément dans des quotidiens comme par exemple dans Le Siècle et également d'autres textes qui ont paru dans Le Mousquetaire, le journal d'Alexandre Dumas. Oui. Ce qui est assez curieux d'abord, première surprise, c'est que Alexandre Privas d'Anglemont, au fond, s'y fait une sorte d'ethnologue, lui qui vient de la Guadeloupe, sur un quartier de Paris sous le Second Empire, ou plusieurs quartiers de Paris sous le Second Empire plus exactement.
Oui, les deux grands quotidiens qui ont été fondés en 1836, à bon marché, Le Siècle et La Presse sont en rivalité. Et il est important de voir que Privas peut
accéder.
Il accède au grand journal, et précisément à cause de sa qualité de chroniqueur. Mais être collaborateur du Siècle, cela a des conséquences, n'est-ce pas ? Le Siècle est dirigé par Monsieur Avin, qui prendra sous sa protection Privas d'Anglemont, et Avin est le représentant de la bourgeoisie républicaine, mais surtout anticléricale. Et là, il y a un milieu auquel Privas appartient et dont il obtiendra d'ailleurs des secours, comme il en a obtenu la protection. Il me semble aussi que la collaboration à un journal important donne déjà le cadre de la chronique, n'est-ce pas ? Privas n'est pas l'homme d'une œuvre de longue haleine. Mais six colonnes, n'est-ce pas, du rez-de-chaussée d'un journal, eh bien, voilà le cadre idéal pour quelqu'un qui veut décrire ce qui est encore existant et ce dont on peut prévoir qu'il va disparaître, à savoir cette vie si particulière dans quelques quartiers de Paris que vous évoquiez tout à l'heure. Et alors, il a sur les Parisiens un avantage, c'est qu'il a des yeux neufs, comme nous le disions, il n'est pas né à Paris, et il a donc un peu ce regard du persan, mais ce regard persan du persan, si je puis dire, qui lui permet de découvrir toutes sortes de traits particuliers à l'intérieur de Paris, et c'est grâce à lui, en effet, qu'une partie de la vie parisienne reste pour nous vivante. C'est bien un ethnologue qui se promène dans Paris et qui sait voir.
Oui, alors quelle est la place d'une chronique comme justement celle que publie Alexandre Privas d'Anglemont dans Le Siècle, dans un quotidien aussi important ? Parce que, à les lire réunis comme ça en volume, on n'a pas du tout le sentiment qu'il s'agisse simplement d'un petit récit agréable et coloré que l'on a demandé à un chroniqueur de journal. Il y a une véritable enquête, presque en termes journalistiques, avec une documentation très intéressante, notamment une documentation économique, financière. Et puis, il y a aussi une dimension supplémentaire, c'est qu'il y a une dimension vécue.
Oui, les enquêtes ont été très nombreuses à l'époque. Elles ont été commandées même par le ministère de l'Intérieur. Il y a une enquête sur la prostitution qui a fait date. Mais ces enquêtes sont des enquêtes quantitatives, si je puis dire. Elles permettent de se rendre compte du nombre de personnes qui exerçaient tel métier, et même le plus ancien métier du monde. Mais ce qui manque à ces enquêtes, c'est précisément la vie. Et je dirais que l'enquête que mène avec désinvolture, parfois avec amusement ou avec mélancolie. Privat, cette enquête est d'ordre qualitatif. Et c'est seulement en utilisant Privat, après avoir lu les ouvrages des statisticiens, qu'on peut se faire une idée de la vie parisienne dans ces quartiers où règne non pas la misère, mais où la vie est vraiment très, très précaire.
Il existe derrière le Collège de France, entre la bibliothèque Sainte-Geneviève, les bâtiments de l'ancienne école normale, le collège Sainte-Barbe et la rue Saint-Jean-de-Latran, tout un gros pâté de maisons connues sous le nom de Mont-Saint-Hilaire. Ce quartier ressemble beaucoup à un gigantesque échiquier. Il est tout emmêlé de petites rues sales et étroites qui se coupent à angle droit et forment de tout petits carrés de maisons adossés les unes aux autres. Dans cet îlot, long d'une centaine de mètres sur 40 de large, on trouve une dizaine de rues toutes vieilles, noires et tortueuses. Le Mont Saint-Hilaire est le point culminant de ce qu'on est convenu d'appeler le quartier latin. C'est l'extrême limite du pays de la science et de la montagne Sainte-Geneviève, dont il est séparé par une rue et quelques maisons. Mais quelle différence de mœurs, de population et d'industrie ! Car Paris a cela de merveilleux, que les habitudes de la population d'une rue ne ressemblent pas plus à celles des habitants de la rue voisine que les mœurs du Lapon ne ressemblent à celles des peuples de l'Amérique du Sud. Vous tournez un coin de rue et l'aspect change, la population aussi. Les goûts, la manière d'être, les travaux, les industries, rien ne se ressemble. Les habitants de la rue Mellet sont aussi différents de ceux de la rue Saint-Martin que les mœurs douces des petits rentiers de la rue Copeau diffèrent des coutumes bruyantes de leurs voisins de la rue Mouffetard. Un étranger qui aurait passé un jour dans la rue du Croissant sans en sortir, qu'on enfermerait dans une voiture pour lui faire faire un long détour et le déposer dans la rue du Sentier, ne croirait jamais que ces deux rues correspondent ensemble. C'est ce qui fait l'incomparable supériorité de Paris sur toutes les villes du monde.
Marc Gaillard, dans ce que Privat d'Anglemont appelle le faubourg souffrant, où il y a la plus forte concentration d'indigents de Paris, sur cette montagne Sainte-Geneviève, il fait une subtile distinction entre deux quartiers sur cette montagne Sainte-Geneviève, la montagne Sainte-Geneviève proprement dite, et ce qu'il appelle le Mont-Saint-Hilaire. Alors, puisque nous sommes justement sur le flanc de cette montagne Sainte-Geneviève, est-ce que vous pouvez nous en donner exactement le découpage, la topographie, étant donné qu'il distingue des caractères extrêmement différents des deux populations ?
En fait, le Mont-Saint-Hilaire, c'est une sorte de microcosme que Privat d'Anglemont a en quelque sorte inventé, qu'il a placé au flanc nord de cette montagne Sainte-Geneviève, qui est effectivement très étendue, puisqu'elle commence au Gobelin et qu'elle vient jusqu'au terme de Cluny. Ce microcosme, c'est le lieu où nous sommes, les rues de l'Anneau, l'ancienne rue des Écossais, tout ça. Et il fait cette distinction parce que dans cette montagne Sainte-Geneviève, habitée plus ou moins bourgeoisement par ailleurs, il y a là effectivement une forte concentration d'indigents et de gens qui, tous les matins, les 30 000 personnes qu'il évoque, qui tous les matins se posent la question de savoir comment ils vont manger et comment ils vont dormir le soir.
Dans son Paris inconnu et Paris anecdote, qui au fond forme un seul grand livre de Privat d'Anglemont, il évoque justement au milieu de cette population d'indigents des gens qui profitent au fond de ce malheur, qui sont un peu plus habiles, un peu plus riches et qui pratiquent ces petits métiers qui sont destinés justement à cette population.
Ça, il dit bien que la population de Paris, le peuple de Paris est faite de gens peut-être indigents mais toujours très intelligents et très débrouillards. Et dans chaque secteur de l'activité humaine, en tout cas dans les vocations de Privat d'Anglemont, il y a quelqu'un qui émerge et qui réussit à faire fortune avec rien. On évoquait les vendeurs d'asticots. Il y a également Monsieur Chapelier qui fait fortune en récupérant des croûtons de pain et en inventant de briser ces croûtons de pain pour en faire de la chapelure qu'il va en boucher, de les torréfier pour en faire du faux pain d'épices, etc. Et tout ce monde, effectivement, fait fortune. Et vous remarquerez que Privat d'Anglemont ne parle qu'un millier de livres de rente pour tous ces indigents qui sont devenus riches à force de travail, d'astuces et d'intelligence.
C'est ça. Il y a toujours une morale chez d'Anglemont. Ce sont des fortunes qui sont faites à partir de gains de quelques sous. sur des produits de récupération. Voilà, c'est ce génie de la récupération. Par exemple, il y a là une tenancière d'estaminet de pieds humides où on vend pour 2 sous la nuit une demi-tasse de café avec eau de vie. Et en fait, ce café, c'est une eau noire qui est faite avec du marc qui a été racheté à des grands cafés.
C'est cela, oui. Même chose pour ce qu'on appelle les fameux arlequins qui ont été, disons, le pain quotidien, c'est le cas de le dire, des populations indigentes de Paris presque jusqu'au XXe siècle, en tout cas autour des Halles, et qui sont tout simplement des amalgames, des espèces de sandwichs, de pâtés, faits avec tous les restes, je ne dis pas les résidus, les restes triés quand même, des grands restaurants et des institutions qui avaient beaucoup de pensionnaires.
Avez-vous rencontré dans vos promenades aux boulevards extérieurs, si toutefois vous vous promenez aux boulevards extérieurs, un homme grand, robuste, coiffé d'un chapeau de feutre à large bord, vêtu d'une blouse recouverte d'une limousine? Il mène devant lui 4 ou 5 chèvres paîtres dans les terrains vagues des environs de Paris. Cet homme se nomme Jacques Simon. Il est originaire de Bourganeuf. Il habite un 5e étage dans une des plus noires maisons de la rue d'Écosse, derrière le Collège de France. Il y exerce la profession de berger en chambre. L'étable, au 5e étage de Jacques Simon, est une des choses les plus incroyables de Paris. Elle est emménagée comme une ferme du Limousin. Le pauvre homme y passe ses nuits couchées près de ses chèvres sur leur litière. Il vit avec elle et, pour ainsi dire, pour elle. Son troupeau augmente chaque saison. Il ne vend ses chevreaux qu'en pleurant le sort qui leur est réservé. Mais pour nourrir ses 2 premiers enfants, il doit travailler. Les dames du quartier qui connaissent cette grande infortune la protègent. Elles lui achètent son lait et elles aident ainsi ce pauvre fou. Sa folie est si douce, si paisible, si triste, si résignée qu'on ne le quitte jamais sans se sentir les paupières humides.
Claude Pichois, dans le Paris inconnu ou le Paris anecdote, Alexandre Privat d'Anglemont fait d'abord une série de portraits de personnages, de portraits insolites. Je pense à cet ancien militaire des guerres de Napoléon. Il a fait la Russie, il a fait l'Allemagne, mais il a également fait l'Algérie, plus tardivement en 1830, qui, vivant peut-être d'une certaine nostalgie de son activité militaire, entretient une véritable compagnie de chiens éclopés. Et il nous le décrit se promenant, toujours escorté par une quarantaine de chiens éclopés qui le suivent et qu'il mène véritablement à l'exercice. Alors, on s'aperçoit que ces gens-là, il ne s'agit pas simplement d'une invention de romancier ou d'un goût simplement de l'anecdote, mais il sait nous en donner toute la dimension humaine.
Oui, il y a d'une part des types, n'est-ce pas, qui se sont reproduits à plusieurs exemplaires, c'est le cas des chiffonniers. Mais le cas de cet ancien militaire, c'est tout à fait individuel, n'est-ce pas? Donc ça, il est traité pour sa valeur pittoresque, mais il est traité avec beaucoup d'humanité, n'est-ce pas? Je dirais beaucoup de tendresse pour ce personnage. Alors il y a en effet dans les chroniques de Privat, qui vont être réunies dans Paris inconnu et dans Paris anecdote, il y a des types et des individus. Mais il y a aussi des scènes, n'est-ce pas? Où l'on voit plusieurs personnes réunies dans un cadre, dans un intérieur, dans une rue, et des scènes qui sont animées. On pourrait assez facilement passer d'une chronique de Privat à une sorte de sketch pour être représenté sur une scène.
Alors Marc Gallagher, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis que nous sommes en train de parler ici, il y a des odeurs assez nauséabondes qui se dégagent à proximité de ces petites ruelles. Et ceci nous fait penser à justement toutes les vocations de ces odeurs extraordinairement fortes que décrit Privat d'Anglemont et qui en fait accompagnaient le Paris déjà même très, très ancien, et notamment ce quartier où il y avait un grand nombre de chiffonniers qui faisaient sécher leur récolte. Donc il y avait une puanteur dans toutes ces rues extraordinaires.
Il dit lui-même, lorsqu'il décrit l'activité de son fameux éleveur d'asticots, qui est un monsieur qui gagne sa vie et qui même fait fortune, vous remarquerez que tous les personnages proches de Privat d'Anglemont font fortune dans leur petit métier. Il fait fortune en élevant des asticots pour les pêcheurs à l'été et des asticots rouges pour les oiseaux en hiver. Il est ici, au cinquième étage d'une maison, et il élève ses asticots sur des charognes. Vous imaginez que l'odeur de nos poubelles contemporaines est un parfum délectable.
Alors nous allons descendre vers le Clos Bruno, si où justement il y avait tout un ensemble de chiffonniers qui habitaient ces maisons. Le Clos Bruno qui n'a pas beaucoup changé d'ailleurs.
Oui, la rue des Écoles l'a évité de justesse et il reste encore cette rue en impasse avec une arche sur la rue des Écoles qui n'a pas changé en effet depuis le temps de Privat d'Anglemont.
Marc Gaillard, entre la rue des Carmes et la rue des Écoles, où on peut accéder par un escalier, nous venons de pénétrer à l'intérieur de l'impasse du Clos Bruno, où il y a encore de part et d'autre des maisons d'âge différent, certaines du 19e siècle, d'autres beaucoup plus anciennes, par exemple. Au 13, si nous entrons, le 13 et le 15 sont deux maisons du 17e. Et si nous entrons, par exemple, ici au 13, nous avons une rambarde d'escalier Louis XIV en bois, avec des poutres, d'ailleurs, sur les murs, des poutres apparentes.
Oui, c'est une méthode de construction qu'on a beaucoup utilisée à Paris tout au long des siècles, et jusqu'au 19e siècle, précisément, avant l'apparition de la pierre de taille. La pierre de taille était réservée aux monuments publics. Et même les bonnes maisons bourgeoises, tout au long du 17e et du 18e, étaient bâties en plâtre de Paris sur structure de bois, comme celle-ci.
Le Privat d'Anglemont nous décrit ce Clos Bruno, probablement donc comme architecture, il n'a guère changé, mais en tout cas comme population, il a certainement beaucoup changé, car c'était notamment ici qu'il y avait des sociétés de chiffonniers dans ce Clos Bruno. Et puis également à l'extérieur,
c'est ça.
À l'extérieur il y avait des couturières qui travaillaient sur le seuil de leur porte. Et puis dans ce passage, on pouvait croiser aussi des musiciens errants, des joueurs d'orgue, des batteleurs, des montreurs de singes. Donc on s'imagine une vie bien différente
en
de
fait,
celle d'aujourd'hui.
C'était plus pour eux un lieu de rassemblement, un endroit où ils pouvaient habiter. Ils partaient de là pour essaimer dans tout Paris. La rue est si peu importante qu'effectivement, on n'imagine pas que tous ces gens exerçaient leurs activités quotidiennes sur place. Mais c'était un lieu de rassemblement et c'est pourquoi Privat d'Anglemont, qui aimait tous les quartiers insolites de Paris, tous les gens qui étaient déjà des marginaux à l'époque et qui vivaient de façon tout à fait particulière, qu'il a si bien décrit, se trouvait ici. Quant aux chiffonniers, c'était ici, si je puis dire, un premier relais. C'est-à-dire que là, ils vidaient leur hôte le matin, puisque les chiffonniers travaillaient évidemment la nuit et le matin de très bonne heure pour faire les poubelles et l'état d'immondice. Et il y avait un second relais, si vous voulez, les chiffons, enfin tout ce qui se trouvait dans les hôtes de chiffonniers était ensuite trié du côté de la rue Bouffetard et des Gobelins sur par des entreprises, si je puis dire, qui avaient déjà beaucoup plus de place, beaucoup plus d'employés pour faire sécher tout ça et pour en faire d'autres choses pour le traiter.
Ce Clos Bruno avait très mauvaise réputation, non pas tellement parce que c'était un lieu de prostitution, mais parce que justement, c'était les marginaux qui vivaient dans ce Clos Bruno. Mmh. Car parmi ces chiffonniers, il y avait beaucoup de ce qu'on appellerait aujourd'hui des repris de justice, des délinquants, certains criminels probablement. Alors quel est ce milieu des chiffonniers? Privat d'Anglemont en fait une petite sociologie puisqu'il les classe en trois catégories différentes. Le clochard ivrogne, le voyou insolent qui est à la fois un véritable dandy et évidemment très ambitieux. Et puis le chiffonnier artiste qui est une sorte de philosophe.
C'est cela. Oui, ce classement qui a été repris par un célèbre docteur sociologue contemporain de Privat d'Anglemont est bien caractéristique de cette époque. Pour Privat d'Anglemont, je pense que la deuxième catégorie qui est la moins fréquentable, le voyou, chiffonnier, dandy. Pour les autres, effectivement, il a beaucoup de sympathie pour eux. Il les fréquente effectivement en ce qui le concerne quotidiennement. Vous connaissez peut-être l'anecdote qu'on raconte sur lui, où un soir, arrêté sur la plaine de Montrouge, enfin c'est le quartier de Vaugirard actuellement, ou de l'avenue Lumen, par une bande de malandrins qui voulaient le dévaliser, il a réussi à les séduire, à passer la nuit avec eux. Et il leur a tellement plu à ces marginaux qu'ils l'ont invité à revenir, mais Privat d'Anglemont toujours réservé, c'est Mancelet qui raconte ça, leur dit « Messieurs, n'engageons pas l'avenir.
»
Il y a à Paris plus de 2000 pêcheurs à la ligne, beaucoup de gamins et pas mal de bons bourgeois établis ou retirés des affaires. Le père Salin a fait connaissance avec ceux-ci sur le bord de l'eau. Il leur fait des asticots pour amorcer toute l'année. Pour cela, il a loué tout le haut de la maison un ancien pigeonnier. Il y met macéré des charognes de chiens et de chats que lui fournissent les chiffonniers. Quand c'est en putréfaction, les vers s'y mettent. Le père Salin les recueille dans des boîtes de fer blanc qu'on nomme calottées, et il les vend jusqu'à 40 sous la calottée. Vous voyez que ce n'est pas bien malin à fabriquer. Mesdames, il faut un fier odorat pour faire ce métier-là. Tout le monde ne le pourrait pas. Aussi, ces journées sont-elles très bonnes au commencement de la saison. Ils ne gagnent jamais moins de 10 à 15 francs par jour, et tout le reste de l'année, 7 à 8 francs. Mais ça n'a pas d'ordre. Ça aime trop à lever le coude. Cependant, lorsque les eaux sont hautes, on ne pêche guère. Il doit souvent chômer pendant l'hiver. Au contraire, c'est son meilleur temps, parce qu'alors, il élève des vers pour les rossignols, ce qui est un excellent métier dont il a presque le monopole. C'est propre, c'est facile, cela rapporte beaucoup. Il suffit de prendre de la recoupe, du petit son, qu'on mêle avec de la farine et de vieux morceaux de bouchon. On les laisse couver dans de vieux bas de laine et les asticots rouges naissent tout seuls. Cela se vend 10 sous le cent. Généralement, les amateurs de rossignols sont de vieilles femmes riches et des bourgeois qui ont des métiers tranquilles. Les bouquinistes, les relieurs, les tailleurs à façon. Tous ces gens-là paient bien et contents. Il suffit donc d'avoir une dizaine de pratiques, possédant chacune 3 ou 4 oiseaux pour vivre bien à son aise et payer une femme de ménage. S'il n'aimait pas tant la boisson, le père Salin pourrait être propriétaire, tout comme un autre. Mais il mourra à l'hôpital, il est trop artiste.
Claude Pichois, dans ce faubourg souffrant, le portrait des petits métiers, on peut dire des petits artisans de ces quartiers, qu'il nous fait dans son Paris anecdote, est aussi des petits métiers pour les gens les plus pauvres. Autrement dit, ce sont les petits artisans qui fabriquent des produits et qui d'une certaine façon s'enrichissent en vendant leur commerce aux plus pauvres, aux indigents. Par exemple, je relève le fabricant d'asticots qui fait une véritable fortune. Il y a les réveilleuses qui, pour quelques sous, vont réveiller chaque matin les gens de la halle, donc très tôt le matin. Finalement, dans ces petits métiers, est-ce que Alexandre Privat d'Anglemont veut nous montrer quelle est l'ingéniosité de personnages savoureux, pittoresques, ou au contraire, est-ce qu'il veut nous faire de manière plaisante la peinture de la misère et de la pauvreté humaine?
Bon, je crois qu'il veut faire l'un et l'autre. Je ne vois pas en lui un révolté qui veut porter sur la place publique une lutte des classes. Mais il y a une pitié profonde chez lui pour ces existences souffrantes. Et il est pris au fond entre deux intentions. Hein. Attirer l'attention justement de ses lecteurs sur ces nombreuses personnes qui vivent d'une manière si précaire, mais aussi faire œuvre d'écrivain. Et le pittoresque l'emporte quelquefois sur la pitié, nécessairement, puisqu'écrivain il est. Mais j'ai trouvé remarquable qu'il pût employer l'expression à propos de tous ces petits métiers que vous citez, dont qui n'existent plus guère de notre temps à Paris. On peut les comparer, si vous voulez, au métier de ceux qui vendent le muguet le 1er mai ou le gui à tel autre moment. Mais il y avait 70 000 personnes, selon lui, qui avaient ces existences problématique. Et j'ai trouvé l'expression extraordinaire, existence problématique. L'adjectif problématique était peu répandu dans la langue française à cette époque-là. Il faut bien comprendre que existence problématique signifie une existence qui fait chaque jour problème. Donc savoir comment l'on mangera.
C'est tout de même en plein cœur de ce Paris d'avant Haussmann, que l'on trouve la moitié, nous dit-il dans son enquête, des indigents, 14 000 indigents qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance et qui représentent la moitié des indigents de Paris qui vivent dans des garnis qui contiennent quelquefois 8 lits et dans des conditions de salubrité absolument impossibles.
Oui, mais c'est surtout le versant sud de la montagne Sainte-Geneviève.
Existence problématique des plus pauvres, de ces indigents, mais il y a aussi un peu moins pauvres, justement, ceux qui, d'une certaine façon, exploitent cette extrême misère par ces petits métiers marginaux.
Oui, je crois que ce qu'il nous montre, sans le dire expressément, c'est précisément l'exploitation de l'homme par l'homme à ce niveau de la misère ou de ce qui est un tout petit peu au-dessus de la misère seulement.
Il y a donc une dénonciation assez polémique tout de même, même s'il est un peu moucheté par l'ironie du style.
Oui, mais la dénonciation se fait, pour ainsi dire, in vivo. Elle se fait sans déclaration d'intention et elle n'en est que plus pertinente, précisément puisqu'il n'y a pas de thèse proposée au lecteur.
Nous descendions une de ces petites rues raides dont les pavés appuyés les uns contre les autres semblent se faire la courte échelle pour monter jusqu'au mont Saint-Hilaire. À la rue des Noyers, mon cicérone me dit « Visitons d'abord les alentours du marché. » Voici la mère Maillard. C'est une bijoutière ou marchande d'arlequin. Je ne sais pas trop l'origine du mot bijoutier, mais l'arlequin vient de ce que ces plats sont composés de pièces et de morceaux assemblés au hasard, absolument comme l'habit du citoyen de Bergame. Ces monceaux de viande que vous voyez là sont très copieux, et cependant ils se vendent un sou indistinctement. Ce bon marché n'a rien d'étonnant. La mère Maillard a passé un traité avec les laveurs de vaisselle de presque tous les grands restaurants. Ces hommes, qui sont relégués dans une étuve où d'un bout de l'année à l'autre, ils restent soumis à une chaleur de 60 à 80 degrés centigrades, ont généralement 25 francs d'appointement fixe par mois. Mais ils se font de 400 à 500 francs par mois avec les restes qui leur appartiennent. Ce qu'on appelle en termes de métier les rogatons, c'est-à-dire tous les morceaux que la pratique laisse dans les assiettes, se vendent par sceaux. C'est là ce qu'achète la mère Maillard, et c'est avec cela qu'elle compose ses arlequins. Le sceau vaut 3 francs. On y trouve de tout, depuis le poulet truffé et le gibier, jusqu'au bœuf au chou. Les ortolans, si on en mange à Paris, y coudoient familièrement le modeste beefsteak. Les eaux grasses, les os, les rognures, les épluchures se vendent à part. La graisse se met dans de petits barils. Elle est achetée par les fabricants de lampions pour les illuminations à raison de 7 francs le baril. La mère Maillard travaille tous ses rogatons. Elle les assemble, elle les assortit, elle les approprie et les vend aux gens aisés pour les animaux domestiques et aux pauvres pour leur nourriture.
Marc Gaillard, en contrebas de la rue des Écoles, nous sommes à peu près en face du Collège de France. Nous sommes rue Saint-Jean-de-Latran. Il y a ici un escalier qui ne permet pas donc d'accéder pour les véhicules directement à la rue des Écoles. Nous sommes un niveau plus bas et nous sommes au coin de la rue Jean de Beauvais et de la rue de Latran. Il y a encore, à côté notamment de l'église Saint-Jean-de-Latran, il y a encore des maisons assez anciennes qui, probablement, évidemment, étaient l'endroit décrit par Privat d'Anglemont, notamment ce qu'il appelle le cloître de Saint-Jean-de-Latran. Donc on peut imaginer que c'était à proximité de l'église. Entrons par exemple dans une de ces maisons au 11.
En fait, le cloître qu'évoque Privat d'Anglemont devait toucher, évidemment, à l'église qui est ici à côté. Là, nous sommes dans une maison du XVIIIe siècle qui a conservé certaines caractéristiques de son architecture.
Oui, la voûte est très belle. Il y a un long passage avant d'arriver à une petite cour.
Oui, avec sa pompe à eau.
Il y a de très fortes poutres en haut de la voûte. Il y a de part et d'autre des bornes en pierre.
Qui protègent les murs des roues des coups de, de jantes et des coups de roues, des charrettes et des équipages de l'époque.
Et dans cette petite cour, il y a une pompe à eau encore.
Cette pompe à eau est assez. Elle évoque bien le Paris du 19e siècle tel que l'a connu Privat d'Anglemont. Parce qu'avant, l'eau à tous les étages, n'oublions pas que même dans les immeubles les plus riches, on devait descendre dans la cour pour chercher de l'eau.
Et encore, c'était dans tous les immeubles, il n'y avait probablement pas une pompe à eau. Oui.
Enfin, depuis Napoléon Ier, quand même, Paris était assez bien approvisionné en eau en raison de la présence du canal de l'Ourcq. Mais au temps de Privat d'Anglemont, et surtout au début du Second Empire, il y a encore des propriétaires récalcitrants qui ne veulent pas qu'on installe l'eau dans les étages parce qu'ils pensent que leurs locataires ne sauront pas s'en servir et vont inonder les escaliers, si bien que les pompes à eau sont restées dans les cours.
Et puis alors, il y avait encore à cette époque-là un grand nombre de porteurs d'eau à Paris qui montaient dans les étages.
Bien sûr, oui. Eau qui était prise évidemment aux fontaines publiques, voire tout simplement aux pompes de la Seine, qui n'étaient pas nécessairement du coup ce que nous qualifierions aujourd'hui les plus saines, mais dont les Parisiens s'accommodaient fort bien. Je rappelle, je crois, qu'il y a eu une bataille mémorable entre l'Académie de médecine et Haussmann, l'Académie de médecine prétendant que l'eau de la Seine était meilleure que l'eau de source.
Les porteurs d'eau qui étaient plusieurs milliers dans Paris au début du 19e siècle, vous en dénombrez 4000.
Oui, c'est tout au long des âges, disons, la corporation des porteurs d'eau a été très importante, parce que c'est lourd, ça se fragmente peut-être, mais ça demande quand même des hommes solides, généralement des Auvergnats, ou des gens issus de régions montagneuses et habitués à vivre à la dure. Et tous ces porteurs d'eau approvisionnent les milliers de maisons de Paris qui, hors quelques congrégations, effectivement, avant le début du XIXe siècle, n'ont pas encore l'eau à la pompe.
Alors cet emplacement du cloître Saint-Jean-de-Latran, Privat d'Anglemont nous le décrit comme une véritable cour des miracles. Et il est garni de chanteurs de rue, de musiciens ambulants, d'avaleurs de sabres, de cracheurs de feu. Et il y a également des danseurs d'œufs, je ne sais pas exactement quelle est cette danse. Il y a surtout des chiffonniers, nous dit-il, donc comme au Clos Bruno, qui font là aussi sécher leur récolte, donc par conséquent il doit y avoir une odeur pestilentielle, ce qui crée dans cet emplacement où il y a également des artistes bohèmes qui vivent dans des conditions évidemment précaires, ce qui crée des dangers de maladies, d'épidémies, dont le choléra.
Oui, en fait on ne sait pas très bien si ce sont dans les cours de l'époque, même les caravansérailles tels que le décrit Privat d'Anglemont, où habite toute une population très, très diverse, ou si ce sont dans les plus anciennes ruelles de la ville de Paris, comme la Cité, comme le quartier de l'Hôtel de Ville, le quartier des Arcisses, qui ont été le plus néfaste, si vous voulez, les plus dangereux à l'époque des grandes épidémies de choléra. D'après le docteur Parent du Châtelet et les spécialistes de l'hygiène au milieu du XIXe siècle, c'est surtout dans les ruelles du quartier des Arcis qui se trouvaient devant l'hôtel de ville, entre l'hôtel de ville et le Châtelet, dans l'île de la Cité, bien entendu, et derrière l'hôtel de ville, dans le quartier Saint-Paul, que les épidémies de choléra ont été les plus violentes. Et c'est même, je crois, d'après Parent du Châtelet toujours, dans la rue de l'hôtel de ville, qui est presque entièrement démolie maintenant, qui va aller jusqu'à l'hôtel d'Aumont, où il y a eu, à chaque fois que le choléra a sévi à Paris, le plus grand nombre de victimes. Ce qui a expliqué par la suite, si vous voulez, les grands travaux d'urbanisme, le dégagement de ces artères qui étaient pratiquement inhabitables. Bien sûr, les poètes et les intellectuels de l'époque les ont regrettés. Oui, Charles Baudelaire en a fort bien parlé, mais aucun d'entre eux n'aurait souhaité même y habiter.
Humour, émotion d'Alexandre Privat d'Anglemont, est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de nostalgie parce qu'il y a un sentiment très fort que c'est un univers qui est en train de disparaître et qui est condamné à mort à plus ou moins court terme?
Je crois qu'au-dessous, il y a tout de même de la mélancolie profonde, pas seulement de la nostalgie en pensant à ce qui va disparaître, mais la mélancolie d'un homme qui n'a pas trouvé sa place dans cette société. Et mélancolie accompagnée d'une amertume voilée. Il est tout de même un exilé par rapport à son pays d'origine. Il n'appartient pas à une catégorie sociale française. Il vit en marginal, qui décrit les mœurs des marginaux. Et en 54, donc 5 ans avant sa mort, il publie un texte très curieux intitulé « Les singes de Dieu et les hommes du diable ». Ce texte a été étudié de près par un professeur noir de l'université noire Fisk à Nashville, Tennessee, et l'étude de David Pellow figure dans le même fascicule 8 des études baudelairiennes de la Baconnière. C'est une légende qui est racontée à Privas par un prêtre sénégambien qui lui-même se trouve à Fontainebleau. Et c'est une idée assez manichéenne du monde. On voit d'une part les blancs, d'autre part les noirs. On voit d'une part Dieu et d'autre part le diable. Alors Dieu a créé la lumière, il a créé le soleil. Le diable a créé la lune et la nuit. Alors, il y a rivalité entre Dieu et le diable et finalement Dieu déclare qu'il va réaliser son chef-d'œuvre. Et quel est ce chef-d'œuvre? C'est le singe. Alors le diable veut l'imiter et que crée-t-il? C'est l'homme. Donc, l'homme est le singe du singe, alors que le singe, pour d'autres, est le singe de l'homme. Et dans ce même récit mythologique, on trouve l'explication de la diversification des êtres humains en blanc, jaune et noir. Alors, une première catégorie des hommes qui ont tous la même couleur, qui travaillent la fonte. La fonte, c'est très important parce que c'est donc l'industrie. Et on retrouve là le grand mythe de Caïn de l'époque romantique, n'est-ce pas? Tout ce qui est travail du fer, travail de la fonte, cela vient du diable ou cela vient de Caïn. Travaillant donc la fonte, il faut que ces hommes se lavent. Et les premiers à entrer dans le ruisseau gaspillent beaucoup d'eau. Ce sont les blancs. Le ruisseau est donc devenu un peu boueux. Seconde catégorie, ou plutôt deuxième catégorie, et vont sortir les jaunes. Mais les vrais travailleurs, c'est la dernière catégorie, ceux-là ne trouveront pas la possibilité de se laver, et ce sont les noirs. Et les noirs sont finalement du côté de Dieu, alors que les blancs sont du côté du diable. Cela prouve que, racontant ce mythe, et le plaçant dans la bouche d'un prêtre, je dis bien sénégambien, Privas est non seulement fidèle à ses origines antillaises, mais par-delà, aux origines africaines des esclaves qui ont été transportés par la traite d'Afrique occidentale jusqu'aux Antilles.
Fin de soirée, merci beaucoup. Et s'il y a des personnes qui ont oublié, le tapis ici vous servira de tiroir caisse. Enfin, ça m'étonnerait. Merci.
Vous venez de nous faire un numéro là de cracheur de feu. Et auparavant, là, il y a des tas de débris de verre sur un tapis. Là, qu'est-ce que vous présentez comme numéro?
Je fais le fardeau humain. Ça consiste à m'allonger sur cette question de bouteille. Et à prendre 3 personnes de 80 à 120 kilos. Ensuite, sur ces mêmes tessons de bouteille, je me mets la joue et je prends une personne de 80 kilos, littéralement debout sur l'autre joue. Et pour terminer, je me mets la face avec une personne allant jusqu'à 150 kilos, debout sur la tête.
Effectivement, c'est du verre authentique, ça.
Ah, oui, ça, c'est du verre authentique. C'est des bouteilles qu'on trouve comme ça dans la rue ou dans les restaurants, où est-ce qu'on va les chercher.
Est-ce que vous avez le sentiment, au fond, de continuer une très longue tradition qui dure depuis des siècles?
Ah oui, oui. Ah oui, quand ça le timbant, ça fait quand même des siècles. Ça existe, c'est normal.
Vous venez de prononcer le mot de saltimbanque. Vous avez vraiment l'impression d'être un saltimbanque.
Ah ben moi, je me considère comme un saltimbanque. Maintenant, c'est aux gens de juger, hein, de la valeur du numéro qu'on présente.
Qu'est-ce que c'est qu'un saltimbanque pour vous ?
Ben moi, un saltimbanque, c'est quelqu'un qui présente son travail dans la rue, qui fait ses numéros dans la rue.
C'est un artiste ?
Bof. On appelle ça un artiste sans être un artiste. Pour moi, je suis pas un artiste. Pour moi, je fais ça, c'est pour gagner ma vie. Et en plus, pour faire voir aux gens, bon ben, si nous descendons dans la rue, c'est pour pouvoir mettre ça à la portée de tous les gens, toutes les bourses. Comme on demande un franc par personne, disons qu'on ne demande pas, on passe. Je pense que les gens, s'ils donnent un franc, bon, quand même un spectacle au niveau maintenant de un franc, je pense que c'est pas cher.
Et alors ce spectacle, c'est une épreuve d'endurance, c'est... Physiquement, qu'est-ce que ça représente ?
Non, le verre, c'est surtout une concentration, c'est musculaire quand même. Faut être concentré. Bon, je fais les verres, comment je fais les chaînes ? Bon, je me fais attacher comme ça, par 15 mètres de chaîne. Et mon rôle, c'est de les faire passer par les épaules. Une fois qu'ils sont bien serrés, bon, ben, ça, c'est pareil, ça, c'est un numéro de force. Bon, puis le feu, ben, ça, c'est un truc de souffle. Pour le feu, faut faire attention au vent. Faut toujours cracher sans se contraire au vent. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. Voilà mon métier.
Tout le monde connaît Monsieur Édouard. Tout Paris a admiré aux abords des théâtres un homme à l'allure athlétique, à la voix de stentor, à l'œil fin, au sourire gracieux, qui hurle pendant 6 heures consécutives « Voilà ce qui vient de paraître !» et qui vous vend une petite brochure imprimée depuis plus d'un an. Mais n'est pas Canardier qui veut. Il faut savoir allécher son public. Monsieur Édouard n'a pas de rival. Il vend les petits livres de Monsieur Émile Jéglé, le Duranton du canard. Jusqu'à présent, les libraires du Quartier Latin, malgré toute leur imagination, n'avaient pu trouver que 36 codes. Monsieur Jéglé en a trouvé un 37e. C'est le code des portiers. Voici comment M. Édouard le vend au peuple de Paris. Le code des portiers ou la tranquillité des locataires. Il faut voir ça, messieurs. Connaître ses droits. Si vous avez un mauvais portier, envoyez-le-moi. Je suis le grand redresseur de tort, le cabrion des pipelets, la terreur de la loge. Tous les cordons m'ont été envoyés par ces sultans de la porte cochère pour me pendre. Je les ai dédaignés parce que je veux rendre service à mes concitoyens. Voyez cela, lisez. Il y a là de quoi vous faire frémir. Prenez le code des portiers et rien qu'en sachant que vous l'avez dans votre poche, le vôtre vous ouvrira au premier coup de marteau, même après minuit, etc., etc. Outre le code des portiers, M. Jéglé a publié toute une série de petits guides à un sou. Il y a le code des gens mariés, le code de l'ouvrier, le code du domestique, le code de la prévoyance, même le code des morts. Sous une forme légère, il a eu l'idée, ingénieuse du reste, de répandre dans le peuple la connaissance des lois que chacun est censé connaître et que personne ne connaît.
Il pense parfois à ses ancêtres qui ont été déportés. Et cela apparaît dans l'étude de David Pellow que je citais tout à l'heure à propos de ce mythe africain, afro-antillais en tout cas. Et il ne faut pas oublier que d'avoir travaillé pour les journaux, d'avoir travaillé sans doute pour d'autres, et là, ce sera un vilain jeu de mots, mais...
Il a été le nègre, il prétend avoir écrit des romans, mais est-ce qu'il ne se vantait pas là aussi ?
Non, il est possible, en tout cas, il s'est appliqué à lui-même cette formule qui en dit long, un des prostitués de l'intelligence. Et il faut donc placer sous cette rubrique les sonnets de Baudelaire qu'il aurait accepté de signer. Et dans un autre sens, on peut dire qu'il a écrit lui-même, je crois que c'est vrai, mais on n'aura jamais la preuve, qu'il a écrit pour tel ou tel des grands producteurs, il n'y a pas d'autre mot, des grands producteurs de l'époque qui n'arrivaient pas à faire face à la demande, il a été obligé d'écrire, certainement. Et pour qu'il ait employé cette expression, que je trouve très belle mais très cruelle, il faut qu'il ait eu vraiment beaucoup de mélancolie et d'amertume.
Claude Pichois, les dernières années de la vie d'Alexandre Privat d'Anglemont vont être particulièrement difficiles et douloureuses. Je pense particulièrement aux années à partir de 1855 jusqu'à sa mort en 1859. C'est un homme qui n'est pas vieux, il a une quarantaine d'années et pas plus. Et c'est dans ces années-là qu'il va véritablement connaître la misère, la maladie, l'hôpital et, disons, une certaine déchéance.
Oui, à vivre au bord de la misère, sa constitution physique s'est délabrée. C'est un homme usé lorsqu'il a 35 ans. Et en suivant la vie de Privat d'Anglemont dans la chronologie qu'a établie Jean Ziegler, je pensais à Verlaine vraiment. D'hôpital en hôpital, avec demande d'indemnité. Il sort de l'hôpital, mais c'est pour, après quelques semaines, revenir dans un autre hôpital.
Mon domicile actuel est l'hôpital Lariboisière, où l'on m'a conduit après un accident. J'ai été échaudé. Sans un interne de l'endroit, je serais mort. Viens ou envoie me voir. Alexandre Privat d'Anglemont.
Qu'est-ce que l'hôpital à cette époque pour cette bohème vieillissante, enfin, plus exactement, d'après la quarantaine, qui se trouve confrontée au manque d'argent, c'est-à-dire à la faim, c'est-à-dire au froid, à l'hiver?
Oui, l'hôpital, c'est un refuge, évidemment. L'hôpital, c'est un refuge, mais c'est tout de même un refuge triste, car pour Privat d'Anglemont, c'est la salle commune. Ce sont les gémissements, ce sont les plaintes, ce sont pendant la nuit la mort de telle personne. C'est une vie qui peut paraître moins dure que celle qu'il mènerait s'il était obligé de passer des nuits debout, accroché à une corde, à des lanières, dans des dortoirs tels qu'il en existait en France et que Nerval a décrit dans Les Nuits d'Octobre. C'est un refuge, certes, mais c'est un triste refuge. Et je crois qu'il va vraiment trouver alors un meilleur refuge dans un hôpital très particulier qui a été fondé au fond pour les écrivains. Après Saint-Louis, après la Charité, après la Riboisière, on va le trouver à la Maison de Santé du Bois. Là, je crois qu'il a été soigné par les médecins, par les internes et par les infirmiers, qui ont été pour lui tout à fait gentils, disons.
Quelles sont les raisons du délabrement de ce corps d'un homme d'une quarantaine d'années? Il est hospitalisé à quatre reprises, et on voit, en fait, pour des raisons différentes. Il va rester plus de 100 jours, 208 jours, à Saint-Louis en 1855 et 56 pour rhumatisme. Ensuite, il va être pendant près de 70 jours à l'hôpital de la Charité pour un abcès et également pour des hémorroïdes en 57. Ensuite, il va être à nouveau hospitalisé en 58 à la Riboisière pendant 80 jours, là aussi pour des hémorroïdes. Et enfin, il va finir sa vie à la Maison de Santé du Bois. Et là, on a diagnostiqué une phtisie.
Oui. Les deux grands mots de l'époque sont la phtisie et la syphilis. Deux grands mots qui étaient multipliés par l'absorption de l'alcool. Et il est impossible, je crois, de vivre la vie de bohème sans être alcoolique, bien que Murger ait parlé de la bohème des buveurs d'eau. Et le délabrement avec l'alcool est assez rapide. Mais je pense que Carteron ou Mulâtre... La vie de Paris n'était pas faite pour lui. Il aurait eu besoin d'une vie beaucoup plus ensoleillée. Et il appelle toujours le soleil de ses voeux, le Paris des brumes, le Paris du spleen, n'est pas le Paris qu'il aime, même s'il le décrit avec infiniment de talent.
Décembre 1858. Mon cher Philibert, le présent billet te sera remis par un garçon de restaurant, Maison d'Or. Je suis retenu par une carte de 16 francs 50. De plus, j'ai presque crevé un œil à un cousin de Monsieur de Rothschild qui m'embêtait. Tu comprends que je ne peux pas rester en prison dans un cabinet pour un peu moins d'un louis. Arrange donc ça avec la caisse du journal, je te rembourserai en copie, j'irai t'expliquer tout ça. Adieu et mes compliments.
Privat d'Anglemont, hospitalisé, continue à correspondre avec ses amis, mais par contre on a l'impression qu'il n'a plus la force de travailler et que privé de ses collaborations aux journaux, aux revues, il n'a donc plus de revenus et il est condamné à la mendicité.
Il est condamné peut-être pas à la mendicité, du moins à la charité.
Demander des aides.
Il demande des aides, il reçoit des indemnités, donc nous en avons parlé, mais je pense que ses amis d'une part, ses médecins d'autre part ont dû être pour lui plein d'égards. On a dû lui rendre aussi facile que possible cette vie d'hôpital. Je ne le vois pas mourir réellement dans la misère. Et je crois que ce qui prouve le sens de l'amitié qu'il avait, c'est qu'il n'a pas cessé d'être entouré d'amis. Et j'aime beaucoup la phrase d'Alfred Delvaux qui va nous parler de la mort de Privat. Delvaux a été l'un des meilleurs chroniqueurs de l'époque. Il a décrit d'ailleurs d'autres lieux, il a décrit les cafés des gens de lettres. Et l'œuvre de Delvaux est actuellement l'un des meilleurs répertoires que nous ayons pour nous informer sur la vie de la bohème.
Et Delvaux a bénéficié d'une célébrité plus importante que Privat d'Anglemont, dont il a préfacé d'ailleurs Le Paris inconnu.
Oui, Delvaux a publié de plus nombreux livres. Il a même publié un roman très curieux intitulé Le Grand et le Petit Trottoir. C'est la même personne qui passe du petit trottoir au grand trottoir. C'est, sous des masques, l'histoire de la païva. Et Delvaux a un tempérament de romancier comme un tempérament de chroniqueur. Et Privat, lui, n'a pas pu écrire de roman. Donc Delvaux s'est imposé, il a vécu plus longtemps, et il avait d'autre part des collaborations qui lui permettaient de faire face aux difficultés financières. Et Delvaux écrit ceci qui m'a semblé très révélateur. Lorsque, à la Maison du Bois, s'éteint Alexandre Privat d'Anglemont le 19 juillet 1859, il est mort comme il avait désiré mourir, en plein soleil, avec des amis autour de lui.
Oui, des amis qui sont là au cours des derniers jours de sa maladie, oui. Qu'on va retrouver également au cimetière Montmartre où il sera inhumé, mais parmi lesquels il n'y a ni Baudelaire, Banville.
Ni Baudelaire, ni Banville. On a un billet de Baudelaire à Banville à ce sujet. Baudelaire avait peur que Privat ne parlât des premières années de leur connaissance, au temps où Baudelaire justement demandait à Privat peut-être de signer tel ou tel sonnet qu'il avait lui-même, Baudelaire, écrit. Et là je vois un écart qui se creuse, mais par la volonté même de Baudelaire, écart comparable à celui qui lui fait prendre sa distance par rapport au réalisme. Or, le réalisme de Courbet, de Champfleury, est très proche de la bohème. Et après 55, Baudelaire rompt avec Courbet, qui a osé le faire figurer dans l'atelier, l'immense toile symbolique, allégorique plutôt. Donc, rupture avec le milieu de la bohème, rupture avec le réalisme. Baudelaire ne veut plus entendre parler de ses années de jeunesse, n'est-ce pas? Et d'autre part, n'oublions pas que condamné par le tribunal comme un souteneur pour la publication des Fleurs du Mal, il cherche sa réhabilitation et sa réhabilitation, il ne pourra pas l'obtenir au contact de la bohème.
Lundi 13 février 1856. Monsieur, l'abbé est venu me voir. Il a voulu me convertir. Il était réellement amusant dans son rôle. Il a été jusqu'à me dire que cela ferait plaisir à une grande dame dont il est le chapelain. Je ne sais pourquoi, cette personne s'intéresse à mon salut. Mais en tout cas, elle devrait choisir des convertisseurs plus spirituels et surtout plus instruits, car son envoyé n'est réellement pas fort. Il va sans dire que je suis resté plus que jamais fidèle à Voltaire et à l'encyclopédie. Le brave homme en a pleuré, c'est drôle. J'ai l'honneur d'être votre très humble Alexandre Privat d'Anglemont.
À plusieurs reprises, lorsqu'Alexandre Privat d'Anglemont est hospitalisé, on lui demande à quelle religion il appartient, et il est fait mention sur les registres qu'a consulté Jean Ziegler de la religion protestante. Alors, était-ce un protestant ?
Non, mais je crois qu'il faut prendre protestant au sens étymologique. C'est une manière pour lui de protester contre la religion qui, si elle n'est pas la religion d'État, est la religion de la majorité des Français et surtout des bourgeois. Et oui, il proteste en s'inscrivant comme protestant. Je ne crois pas qu'il soit né protestant. Mais le protestantisme, à cette époque-là surtout, n'est-ce pas ? Le protestantisme est très proche de ce qui va être la religion laïque officielle de la Troisième République. Le protestantisme est très proche du radicalisme et le protestantisme a fourni à la Troisième République nombre de radicaux bontins. Être protestant, c'est être en quelque manière collaborateur du siècle, ami de Monsieur Avin, anticlérical, et c'est donc poursuivre cette recherche de la marginalité qui a été sa recherche vitale, sa recherche existentielle depuis qu'il est à Paris. Il reste fidèle aussi alors à sa mélancolie, à son amertume, puisque par testament, il demande qu'il n'y ait ni article nécrologique, ni oraison funèbre. Ses amis ont écrit sur lui après sa mort, heureusement, il fallait lui rendre hommage et ses articles sont pour nous une source d'information. Et il lègue son corps aux jeunes gens qui étudient l'anatomie. Donc ce corps, il ne le respecte plus à partir du moment où il meurt, ce n'est plus qu'un objet d'étude pour des étudiants en médecine. Et là, j'y vois vraiment la trace d'une amertume assez profonde, une volonté de disparaître complètement.
Les inconnus de l'histoire enquêtent sur un poète de la Bohème qui se fait ethnologue de Paris, Alexandre Privat d'Anglemont, par Jean Montalbetti. Médiateur Claude Pichois, professeur de littérature comparée à l'université de Paris 3, éditeur des œuvres complètes de Baudelaire dans la Pléiade. Consultant Marc Gaillard, auteur d'une histoire de Paris au XIXe siècle. Les textes extraits de Paris Anecdote et de Paris Inconnu d'Alexandre Privat d'Anglemont ont été dits par Denis Manuel. Prise de son Daniel Labigne et Patrice Klein. Mixage Jean-Paul Herbert. Réalisation Dominique Costa.
Cette émission, la deuxième et dernière de la série des Inconnus de l'Histoire, consacrée à Alexandre Privat d'Anglemont, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 novembre 1983. Vous pourrez la télécharger, ainsi que la première, sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».